France Culture. À voix nue, épisode 2, de Haron à Fukuyama. Bonjour Dominique Moisy.
Bonjour.
Pour ce deuxième temps de nos à voix nues, je vous propose en effet de parler de votre formation intellectuelle et de quelques maîtres que vous avez eus, à commencer par Raymond Aron. Raymond Aron que vous avez rencontré en intégrant son séminaire à l'EHESS. On est au tournant des années 68, c'est ça? Vous venez d'échouer à l'ENA. Donc par l'intermédiaire d'une connaissance, vous intégrez le séminaire de Raymond Aron à l'École des hautes études en sciences sociales. Et là, c'est une révélation.
Oui, c'est une chance extraordinaire. Aron était en manque d'étudiants. Il n'avait plus le droit d'enseigner à la Sorbonne. Après ses positions très distantes sur mai 68, l'intolérance d'un certain monde étudiant et d'un certain monde universitaire faisait qu'il n'était plus le bienvenu à la Sorbonne. Et un de ses proches, un philosophe grec, spécialiste de Hegel et de l'art grec, Kostas Papaoyannou, que j'avais rencontré via un ami très proche, s'était chargé de recruter des jeunes pour encadrer Raymond Aron. Il était orphelin de la jeunesse. Et c'était une rencontre magique pour moi.
Qu'est-ce que vous saviez de Raymond Aron, à part que vous aviez lu Paix et guerre entre les nations, qui a été publié en 1962, et que c'était pour vous en tout cas, et pour beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, une bible en matière de relations internationales?
Je ne savais pas grand-chose. Je me sentais proche de lui, sans le connaître. Et le livre que vous avez cité était très important. Il y en a eu un autre, De Gaulle, Israël et les Juifs, dans lequel je me suis reconnu aussi en 1967. Mais approcher Aron, c'était un privilège. Et il y a eu une sorte de relation très forte qui s'est établie presque de nature filiale entre un jeune homme, un peu à la recherche d'un père spirituel. J'admirais mon père pour les drames qu'il avait traversés, mais il n'était pas une source d'inspiration intellectuelle. Et sans doute, la ruine familiale faisait que je ne le traitais pas aussi bien que j'aurais dû le faire, imitant en cela le comportement de ma mère. Et soudain, je rencontrais un maître à penser. Et lui voyait un jeune homme qu'il admirait profondément. Et nous nous sommes très vite embrassés. Aron me prenait dans ses bras, me parlait de ma famille, je lui parlais, je lui posais des questions. C'était une relation très forte. Je lui parlais de Gaulle, de sa relation avec le général de Gaulle. Et au début des années 70, je venais de gagner un concours, une bourse pour aller à l'université Harvard. Il venait d'être nommé professeur au Collège de France et il faisait son cours sur ce qui allait devenir son livre, La République impériale, l'Amérique. Et il s'est dit, Dominique va à Harvard, je vais lui demander de venir avant mon cours au Collège de France et je vais tester mon cours avec lui. Et donc j'avais le privilège extraordinaire d'être la première personne à écouter le cours que Raymond Aron allait prononcer au Collège de France. Et un jour, j'étais pauvre à l'époque, je lui ai fait part du dilemme qui avait été le mien. Je lui ai dit, écoutez, j'avais 10 francs, je ne savais pas, ou 100 francs, je ne sais plus, enfin une petite somme de monnaie. J'ai vu deux livres qui me tentaient dans la librairie en face du Collège de France et je ne savais pas lequel choisir. Alors il m'a dit, de quel livre parles-tu? Je lui ai dit, il y avait Les chaînes qu'on abat d'André Malraux et Venise de Paul Morand. Et qu'as-tu choisi? Je lui ai dit, j'ai hésité longuement et j'ai choisi Venise de Paul Morand. Et son visage s'est illuminé. Et le soir, il m'appelait en me disant « Veux-tu venir avec moi à Venise ? J'ai besoin d'un assistant pour un colloque sur, je sais plus, la préhistoire et le futur. » Et je me suis souvent demandé s'il m'aurait invité, si j'avais choisi Malraux plutôt que Morand. Donc, non, j'avais une relation très forte avec Raymond Aron. Il avait des passions que on ignore souvent. Il m'invitait à regarder des matchs de sport chez lui, à sa télévision. Il était assez seul, en réalité.
Est-ce que Dominique Moisy, vous lui avez fait part de votre hésitation au tournant des années 70 entre aller enseigner en Israël et aller à Harvard, vous aviez la possibilité, et vous, finalement vous êtes allé, au Centre d'études européennes
fondé par Stanley Hoffman. En réalité, les deux, le choix n'était pas celui-là. J'avais été invité à enseigner à l'Université hébraïque de Jérusalem par Shaul Friedlander, et j'ai obtenu la bourse Sachs pour aller à Harvard après avoir accepté cette offre de Shaul Friedlander. Et Raymond Aron était au courant de tout cela. J'avais fait relier chez un éditeur très prestigieux de la rue de Seine son livre « Paix et guerre entre les nations ». Et je lui avais demandé de me le dédicacer. Et il m'avait fait un grand mot pour Dominique et son aventure israélienne, qui lui paraît infiniment plus exotique que mon passage à Harvard. Harvard, ça c'est un passage passionnant, essentiel pour moi, puisque j'y rencontre celle qui va devenir mon épouse,
ça n'est pas rien.
Diana Pinto, et je me sens pour la première fois incroyablement français.
Européen même.
Européen. C'est-à-dire que à Sciences Po, dans les années 60, il y avait ceux qui appartenaient aux élites et ceux qui n'appartenaient pas. J'ai découvert l'existence de cercles comme le cercle Olivain quand j'ai été invité à faire des conférences. Mais comme étudiant à Sciences Po, j'ignorais tout de cela. Il y avait des strates superposées qui ne communiquaient pas les unes avec les autres. Alors qu'à Harvard, j'étais la France, j'étais Paris, j'étais l'héritier de mai 68, c'était en pleine guerre du Vietnam, et du général de Gaulle, qui avait dit non à cette même guerre. Donc j'existais indépendamment de ma position sociale. J'avais eu la chance d'entrer dans la maison des artistes à Harvard, Adams House, parce que un de mes amis très proches connaissait la famille Adams. Et donc, je découvrais un monde dont je rêvais en réalité. Les feux dans la cheminée, les chansons de comédie musicale improvisées dans les salons d'Harvard. Un sentiment de liberté et de révolte plus grand encore que celui que j'avais pu connaître en mai 68 à Paris. Donc c'était une ouverture extraordinaire sur le monde et en plus la rencontre pour la première fois d'un Allemand qui lui pour la première fois rencontrait un Juif dont le père avait survécu à Auschwitz et un processus. Nous nous sommes apprivoisés avec cette curiosité extraordinaire l'un pour l'autre qui nous faisait rendre compte à quel point nous étions européens dans ce monde américain. Il y avait beaucoup plus entre nous qu'il pouvait y avoir entre nous deux et le monde américain qui nous entourait. Donc c'est une découverte pour moi et je découvre à quel point je suis le français pour eux. Et je me sens européen avant de partir en Israël. Et quand je pars en Israël, je sais que je vais rentrer, que je vais revenir en Europe.
Donc c'est un an à Harvard, cette parenthèse enchantée qui vous fait comprendre beaucoup de choses, hein, Dominique Moisy, et 2 ans à l'Université hébraïque de Jérusalem.
Alors c'est un peu moins de 2 ans, c'est étalé sur 3 ans, parce que je termine d'écrire ma thèse en France, et c'est Raymond Aron qui va présider mon jury de thèse, et pour moi c'est un moment essentiel. C'est merveilleux, j'ai 26 ans, et j'enseigne à des étudiants qui sont plus âgés que moi, puisqu'ils ont fait leur service militaire en Israël, qui sont infiniment plus mûrs que je ne peux l'être moi-même. Ils ont traversé des guerres. Mais je le perçois très vite comme une aventure exceptionnelle, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas ma langue. Les paysages sont trop rudes, trop tragique, la couleur verte des arbres me manque terriblement. C'est la même chose d'ailleurs avec Shaul Friedlander, le directeur de mon département. Lui adore la Suisse. Moi, je ne sais pas encore que je vais adorer la Normandie, mais il y a cette idée que les paysages de la Bible sont décidément trop tragiques.
Vous y êtes encore quand éclate la guerre du Kippour en 1973?
Alors, quand éclate la guerre du Kippour en 73, je suis à Paris. Je suis en train de travailler sur ma thèse. En fait, pour des raisons de calendrier évidentes, j'apprends la guerre dans la synagogue où je suis en train de prier pour la fête du Kippour. Et je remonte chez moi, j'écoute les informations. Shaul Friedlander vient à Paris. Nous allons sillonner Paris, expliquer, voir. J'ai un déjeuner chez Jean Daniel, qui est resté dans ma mémoire.
Qui était le directeur du Nouvel Observateur,
voilà,
déjà.
Absolument, absolument. Et qui voulait tout comprendre. Je vois Raymond Aron. Donc c'est un moment intense. Mais je n'ai pas d'inquiétude quant à l'issue de la guerre, même si en 73, ce sera beaucoup plus difficile pour Israël que ça ne l'a été en 1967. Et Raymond Aron avait un disciple et un ami à l'université hébraïque, qui était un ancien général, qui s'appelait Arkabi. Et nous avions pris l'habitude de marcher pour aller à l'université ensemble, du quartier où j'habitais, qui s'appelait Réravia, un quartier assez chic dans Jérusalem. Et nous faisions de longues marches dans un paysage très beau, avec un monastère d'un côté, le musée d'Israël au milieu et la Knesset un peu plus haut. Et c'était après la guerre du Kippour. Il avait été chef des services de renseignement. Il avait dû démissionner parce qu'il avait déclenché une alerte qui s'était révélée infondée. Et là, c'était l'inverse qui s'était produit en 73. L'alerte n'a pas été déclenchée. Israël a été attaqué par surprise. On est déjà une sorte de pré-7 octobre.
Sauf que là, c'était l'Égypte et la Syrie qui
attaquaient. Voilà, absolument. Et ces conversations m'ont frappé parce que il me disait, après la guerre du Kippour, la clé du problème, c'est la question palestinienne. Et dès 1973, je suis absolument persuadé que la sécurité d'Israël passe par la légitimité d'Israël et que la légitimité d'Israël implique l'existence aux côtés d'Israël d'un État palestinien. Et cette conviction, elle me vient dans mes longues marches avec Yehoshaphat Arkabi. Et à l'époque, ça paraît tout à fait envisageable. C'est un Israël complètement différent de celui qui existe aujourd'hui. Il n'y a pas eu des torrents de haine et de sang qui ont été versés entre les deux peuples. Mais j'en rêve profondément. Et quand on arrivera dans les années 90 aux accords d'Oslo, je vais applaudir complètement à ce qui se passe et je vais, à un moment donné, je m'en souviens très bien, célébrer la paix que je crois proche avec le grand poète palestinien Darwish.
Mahmoud Darwish.
Voilà, Mahmoud Darwish. On va boire du champagne toute la nuit, tomber dans les bras l'un de l'autre. La paix est proche. Et bien entendu, c'est une illusion, mais c'est une illusion qui naît chez moi dès 1973, dès les lendemains de la guerre du Kippour.
Après votre thèse, Dominique Moïsi, vous enchaînez un certain nombre de choses puisque vous vous retrouvez secrétaire général du groupe d'études et de recherche sur les problèmes internationaux sous la houlette de Raymond Aron. Vous commencez à enseigner à l'université de Sceaux et vous vous voyez confier un poste à l'université de Nanterre.
Oui. Oui, ça, j'ai eu énormément de chance.
Vous avez commencé très vite.
Oui. C'était la protection de Raymond Aron et directement l'amitié de disciples de Aron comme Annie Krigel ou d'autres. En fait, Raymond Aron est tout à fait conscient du fait que les relations internationales en France sont gérées par une institution qui s'appelle le Centre d'études de politique étrangère, qui a été créé en 1935, qui est géré depuis très longtemps par une même personne, Jacques Vernant, le frère de l'historien Jean-Pierre Vernant. Et c'est une institution un peu assoupie et surtout idéologiquement très gaulliste de gauche, très anti-atlantiste, très anti-européenne. En réalité, et Raymond Aron dit mais il faut créer quelque chose à côté de cela. Et ce quelque chose, ça va être la fusion entre le GERPI que vous avez mentionné et le Centre d'études des politiques étrangères, ça va être l'IFRI en 1979. Et c'est intéressant parce que les mémoires d'un espion russe, Mitrokhine, qui sont sortis il n'y a pas si longtemps, contiennent des révélations et montrent que Jacques Vernant était payé par le KGB et que les soupçons que nous pouvions avoir sur les orientations politiques du Centre d'études de politique étrangère étaient peut-être fondés sur quelque chose. Et donc, c'est là où il y a un moment politique intense, où il s'agit, le président de la République est Valéry Giscard d'Estaing, il s'est rendu en Allemagne, en Angleterre, bien entendu, il a vu les institutions, les think tanks qui traitent de relations internationales, et il a demandé, mais pourquoi y a-t-il un tel contraste, un tel décalage entre ces institutions si pleines de vie en Allemagne et en Grande-Bretagne, je ne parle même pas des États-Unis et la France, et une sorte de complot se fait à l'Élysée auquel nous allons participer, Thierry de Montbrial et moi-même, et on va créer l'IFRI.
Quelle tendance politique alors l'IFRI à
Alors l'IFRI est libéral, l'IFRI est pro-européen, l'IFRI est assez atlantiste. Et on est à 2 ans des élections présidentielles qui vont amener Mitterrand au pouvoir, qui aurait dû signifier la fin de l'IFRI et qui en réalité vont constituer la chance historique de l'IFRI.
Pour quelle raison ?
Parce que le pouvoir socialiste va se rendre compte qu'il doit rassurer l'Amérique et l'Europe alors qu'il y a une coalition socialo-communiste qui arrive au pouvoir en France. Et la chance, c'est qu'en réalité, les socialistes qui arrivent au pouvoir en 81, il y a Régis Debré, Jacques Attali, Jacques Utzinger, qui dirige le secrétariat pour les affaires internationales du parti, visitent l'IFRI comme des conquérants, mais ne perçoivent pas l'intérêt pour eux de prendre le pouvoir là. C'est pas assez important, pas assez significatif. L'IFRI vient d'être créé. Et par contre, alors il y a des petites mains qui vont travailler. Il y en a une, Hubert Védrine, qui va devenir ministre des Affaires étrangères de la France, avec qui je vais co-signer un livre, quand il est ministre, de nombreuses années plus tard. Et Mitterrand, quelque part, comprend que garder l'IFRI tel qu'il est, avec des personnalités qui avaient été choisies par le régime précédent, Valéry Giscard d'Estaing, Jean-François Poncet, c'est beaucoup plus utile pour lui que de s'en emparer. Donc il faut rassurer l'Amérique et je crois qu'à un moment donné, je vais jouer un rôle important pour obtenir une aide significative de la Fondation Ford. Et l'histoire va se faire un peu à la marge, à l'IFRI. On va parler de la guerre des étoiles. Les généraux français, les généraux américains vont se rencontrer dans le cadre de l'IFRI, dans des consultations organisées par nous. Et nous sommes une sorte de passeport pour la légitimité pour François Mitterrand.
10 ans plus tard, donc en 1989, Dominique Moïsi, c'est la chute du mur de Berlin. Vous avez rapporté un morceau d'ailleurs de mur. Vous dites de cette époque que les dominos tombaient dans la bonne direction. Mmh. On verra plus tard si le balancier s'est retourné.
La chute du mur de Berlin va me permettre de poursuivre dans le champ de la géopolitique. Dans les années 80, je m'ennuie à mort. Compter des missiles, ce n'est pas ma tasse de thé. Et soudain, le mur s'effondre, les émotions apparaissent pour ce qu'elles sont, décisives, et j'ai un débat avec Elie Wiesel dans la presse mondiale, ça a été publié par le New York Times, Die Zeit. En France, c'est l'Express qui en a été le relais.
Elie Wiesel, écrivain, philosophe et prix Nobel de la paix, il faut-il le rappeler.
Elie Wiesel dit... Je crains ce qu'il y a derrière le mur. Ça veut dire que ce qui existe à l'est de l'Europe est dangereux et vous allez vous en rendre compte. Et moi, j'ai la thèse inverse. Je dis, mais j'ai été à Berlin, j'ai ramené ce bout de mur. J'en suis très fier, très heureux. Il est le symbole de la réconciliation entre mes trois identités. Française, européenne et juive. Bon, il n'y a pas tellement de voix juive à l'époque qui expriment cela fortement en France. Et je vais être invité par le chancelier Kohl et en réalité le président allemand von Weizsäcker. Je ne vais pas rencontrer Kohl, il est débordé. Je vais rencontrer son directeur de cabinet, Michael Mertes, qui va devenir mon meilleur ami allemand. Et je vais rencontrer longuement Richard von Weizsäcker, qui va régulièrement me faire venir pour parler de la France et des relations franco-allemandes. Il est président. Tous les 3 mois, je prends l'avion, je vais à Bonn. Et il est heureux d'avoir une voix française, juive. Il a été l'avocat de son père au procès de Nuremberg. Est-ce que je suis un alibi pour lui? Je ne me suis jamais vraiment posé la question, mais j'ai des conversations absolument passionnantes avec le président allemand en exercice qui me confie son admiration pour Mitterrand, son mépris pour Helmut Kohl, et je me bats à front renversé. Je lui dis, mais vous savez... Vous êtes sévère avec Kohl, qui va entrer dans l'histoire comme le chancelier de la réunification, qui est grandi par les événements, et vous êtes trop généreux avec Mitterrand, qui est profondément amoral dans son approche de l'histoire et de la politique. Et donc, il y a ce moment très important pour moi où je me découvre plus européen que jamais et acteur à la marge de la réunification allemande. Je connais Védrine, une de mes étudiantes et conseillère proche de François Mitterrand. Et je me bats pour dire, mais Mitterrand et Kohl étaient à Verdun pour fermer l'histoire. Ils doivent être à Berlin pour l'ouvrir. Et ils se tenaient par la main, rappelez-vous, à Verdun. Je pensais qu'il aurait été noble qu'ils se tiennent par la main pour ouvrir le futur à la porte de Brandebourg. Et je me suis rendu compte très vite que Mitterrand n'avait aucune intention de faire cela. J'avais accès aux dépêches de nos ambassadeurs à cette époque et je voyais les erreurs incroyables commises par l'ambassadrice de France à Pankow, en Allemagne de l'Est, qui ne comprenait pas que l'Allemagne de l'Est était condamnée, que c'était une question de moi, et défendait encore le voyage de Mitterrand à Pankow, à Berlin-Est, alors que ça me paraissait absurde. Et Mitterrand disait, bon, la chute du mur, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, mais est-ce une bonne nouvelle pour la France ? Et donc je devais me battre là. Et il y avait à l'Ifri, quand le mur est tombé, j'ai dit à Thierry de Montbrial, mais il faut boire le champagne, c'est une grande nouvelle, c'est la victoire de la liberté. Et il me dit non, il n'est pas question qu'on fasse ça. Et je me suis retrouvé seul avec un Allemand qui était probablement lui aussi un héritier du Centre d'études de politique étrangère qui venait de l'Est, qui avait peut-être été financé par le KGB à un moment de sa vie, mais qui buvait le champagne avec moi pour la réunification de l'Allemagne.
C'est la victoire de la liberté, disiez-vous, mais ça n'est pas pour autant la fin de l'histoire. Donc, oui. Mais à cette époque-là, vous, alors je ne sais pas si c'est vous et l'IFRI, mais vous, en tout cas, vous opposez à la thèse de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire. Et j'aimerais bien que vous vous attardiez un tout petit peu sur ce moment-là et sur ces théories. Donc, la fin de l'histoire, c'était, selon Fukuyama, la victoire de la démocratie libérale. Pourquoi vous n'étiez pas d'accord avec cette thèse-là ?
Alors, je crois que j'ai bien connu Francis Fukuyama. Nous avons débattu ensemble à plusieurs reprises. Je sens confusément que la formule qui est retenue, la fin de l'histoire, n'a pas de sens. Mais on avance sur ce qu'on va traiter plus tard, la géopolitique de l'émotion le produit de mon rejet de deux livres, celui de Fukuyama, que je trouve trop optimiste, et celui de Huntington, le Clash of Civilizations.
Le choc des civilisations.
Le choc des civilisations que je trouve trop pessimiste.
Eh bien, nous nous arrêtons là et nous reprendrons sur ces mots-là pour l'épisode suivant, puisque l'épisode suivant, Dominique Moisy, est précisément consacré à cet ouvrage qui a rencontré un immense succès, la géopolitique de l'émotion. Merci. Et à demain. C'était À Voix Nue avec Dominique Moisy, prise de son Clément Vuillet, réalisation Nathalie Salle, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.